pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
En RDC, la pauvreté affecte plusieurs personnes qui vivent dans différentes communautés. D'après les experts, tout le monde peut bien s'impliquer, j'allais dire, pour éradiquer cette gangrène, c'est-à-dire ce mal qui est la pauvreté, en créant de projets d'intérêt communautaire pour l'accès aux besoins primaires, accès à l'eau, accès aux soins de santé, et accès au logement, à l'éducation, au logement. Avec notre invité, on va parcourir tout cela, c'est-à-dire comment faire pour éradiquer la pauvreté dans une communauté. Pierre Ongala, on l'a dit, vous êtes spécialiste en agro-développement. Est-ce qu'on peut d'abord savoir qu'est-ce qu'on entend par pauvreté?
Voilà, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. J'entends pas la pauvreté pour une personne, par exemple, qui a besoin de plusieurs choses. Il y a plusieurs besoins qui n'arrivent pas à avoir de satisfaction. Comme vous venez de le dire tantôt, moi je vois certains besoins. Il y a des besoins fondamentaux, par exemple la nourriture, le logement, l'habillement. Et à cela, ajouter d'autres besoins qui sont l'éducation et la santé. Alors, quand une personne n'arrive pas à satisfaire ses besoins, il est dans un état de pauvreté. Et si quelqu'un a de revenus et qu'il arrive à satisfaire ses besoins, donc cette personne n'est plus dans un état de pauvreté. Donc, les besoins, quand ces besoins demeurent, on est dans un état de pauvreté.
Et voilà, là, on est en train de parler à comment éradiquer la pauvreté dans une communauté et comment on peut aider les gens à accéder à tous ces besoins primaires, parce que ça fait tout de même mal de voir des gens mourir de faim, des gens qui ne savent pas accéder à la nourriture, qui ne mangent pas, des gens qui dorment dans des conditions inimaginables. Et comment, au sein d'une communauté, on peut résoudre tous ces problèmes, c'est-à-dire éradiquer la pauvreté?
Moi, le terme éradiquer vraiment me dépasse parce que je ne connais pas une communauté dans le monde qui a éradiqué la pauvreté. Mais moi, je peux penser qu'on peut lutter
contre la pauvreté.
Et dans mon pays, pour le cas d'espèce, mon pays est classé parmi les pays moins avancés. On ne peut pas dire que dans un pays moins avancé, on peut facilement éradiquer la pauvreté. À plus forte raison, 80% des personnes vivent avec moins d'un dollar par jour. Arriver à éradiquer dans une partie de la République, une communauté, peut-être, c'est trop fort.
Mais au sein d'une communauté, il y a moyen de s'organiser pour accéder à tous ses besoins primaires au sein d'une communauté, c'est bien possible?
Ah oui, c'est-à-dire maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avoir des revenus. C'est-à-dire, au sein d'une communauté, la communauté peut s'organiser et à réaliser des activités porteuses qui peuvent leur donner des revenus. Et ces revenus vont leur donner le moyen pour faire face à certains besoins, même à tous les besoins, si quelqu'un est très fort.
Comment on peut bien s'organiser? Prenons le cas, par exemple, au sein d'une communauté, vous dites, bon, il faut lutter contre la sous-alimentation, il faut aider les gens à avoir de la nourriture. Comment on peut faire?
Oui, là vous allez améliorer leurs conditions dans les milieux dans lesquels ces gens vivent. Alors, les gens, vous avez parlé de l'agriculture. Dans l'agriculture, maintenant, il faut maintenant orienter à favoriser ces gens à faire de l'agriculture qui porte, qui amène de revenus. C'est le cas, par exemple, à l'époque coloniale, on faisait faire des champs de café, des champs de coton. Moi, je connais une tribu vers la province orientale des Turumbo qui ne mange pas le riz, mais à qui on a fait cultiver le riz pour avoir de moyens. Mais pour nous, comme j'ai dit tantôt, il y a tout ce que nous faisons comme culture maintenant n'apporte pas l'argent. Mais nous connaissons qu'il y a des cultures qui apportent de l'argent. Si quelqu'un faisait du maïs, oui, il aura de l'argent. En ville ici, si quelqu'un fait la culture maraîchère, et nous savons qu'il y a des gens qui savent quelle culture faut-il pour que je puisse avoir des moyens. Le même cas pour l'élevage. Il y a des gens. Les gens ont besoin de la protéine animale. Et c'est des gens qui élèvent, par exemple, les porcs. Ici, vous avez des gens qui vont vendre dans des alimentations un peu partout. La viande de porc est bien consommée malgré tout le reste. Ils ne sont pas tous à mesure de le faire à cause peut-être de la technicité. Donc, pour combattre la pauvreté, pour moi, au milieu où les gens sont peut-être paysans, c'est leur donner la formation et leur faciliter la tâche pour certaines cultures en apportant, par exemple, des semences qui sont améliorées et en apportant, par exemple, des géniteurs qui peuvent maintenant être croisés avec des géniteurs améliorés qui peuvent être croisés avec des femelles locales et apporter maintenant d'autres animaux qui ont un poids plus élevé ou qui sont plus productifs. Alors, ce sont ces genres de choses qu'on peut amener dans un milieu. L'essentiel est que ces gens arrivent à vendre et à trouver des revenus qui leur servira pour certains besoins.
Et là, nous avons évoqué le cas du secteur agricole, du secteur alimentaire, mais prenons le cas de l'accès aux soins de santé ou à l'éducation. Et comment, au sein des communautés, on peut bien s'y prendre?
Oui, en tout cas, pour ce qui concerne l'éducation et la santé, ça, la communauté étant pauvre, ça, c'est l'œuvre de l'État. C'est l'État qui a des moyens pour pouvoir implanter les écoles, les centres de santé. Ces gens étant pauvres ne peuvent pas même vraiment arriver à ces choses-là. C'est pourquoi l'État est en train de faire un effort là-dessus pour arriver à éduquer le plus grand nombre de citoyens et à soigner le plus grand nombre aussi de citoyens.
Donc quand l'État n'est pas bien présent, donc ça devient compliqué pour des personnes qui vivent au sein d'une communauté. Mais si, est-ce qu'au sein d'une communauté, les initiatives, il faut encourager les initiatives collectives, parce que des fois, il y a des gens qui prennent des initiatives individuelles, et puis ça ne porte pas souvent solution.
Oui, mais vous parlez de communauté, il faut avoir vécu quelque part, hein,
oui.
Parce qu'on ne devient pas soi-même aviateur ou on ne devient pas soi-même docteur.
Oui.
Il faut avoir été formé quelque part par ceux-là qui ont de la science. Mais vous savez, la communauté que nous avions, c'est une communauté dominée par les paysans. Si ces paysans avaient de l'expertise, je crois que le milieu dans lequel ils vivent serait déjà très développé. Alors, vous comprenez qu'il faut quand même qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent avec de bonnes idées de développement pour leur amélioration de conditions. C'est ainsi que s'il y a des ONG dans le milieu, parce que les ONG travaillent dans ce sens-là.
Oui.
Et s'il y a aussi des églises, et si l'État peut arriver à s'ajouter, alors ces gens des ONG, des églises, de l'État apportent quelque chose pour que le milieu où ils sont implantés, les gens commencent quand même à vivre une certaine vie. Et tous nous aspirons vers une vie civilisée et moderne.
Voilà comment lutter contre la pauvreté au sein, dans une communauté. On en parle avec Pierre Ongala, il est expert en agro, spécialiste en agro-développement. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Nous avons Patrick Kibali qui appelle de Kindu dans l'Humanim. Il y a également Christian Kaïté qui appelle de Lumbashi dans Lukatanga. Pour ceux qui veulent également intervenir, appelez au 081-890-6394 ou bien faites un SMS au 081-711-5001.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Patrick Kibali, vous êtes à Kindu dans le Maniement. Bonjour Patrick, quelle est votre question?
Bonjour Marcel et bonjour à l'invité.
Bonjour. On vous écoute Patrick.
J'ai une question à poser à l'invité qui est la suivante.
Oui.
Quelle stratégie que l'État congolais adopte pour lutter contre la pauvreté dans nos communautés?
Stratégie adoptée par l'État congolais, oui.
Que l'État congolais,
oui,
est leader de la communauté internationale.
Bon.
Parvienne d'abord à investir dans les femmes. Dans les femmes salariées, réussit à moyenne 90% de ses gains dans l'amélioration du bien-être de sa famille.
Voilà, merci. Voilà, merci Patrick, de l'inviter à vous répondre tout à l'heure. Vous avez appelé des Kindu dans le Maniema. Christian Kaïté, vous êtes à Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour Christian. Christian Caïté, bonjour. Bon, on va le retrouver plus tard. On va directement à Kananga, dans le Kassai Occidental. Et là, on va retrouver Justin Tamboué. Bonjour, Justin.
Bonjour, Radio Capi Service. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour aussi à l'invité.
Merci.
On vous écoute, Justin. Allez-y, quelle est votre question?
Nécessairement, je voulais tout simplement intervenir par rapport à ces sujets. Aujourd'hui, pour faire diminuer la pauvreté et contrebalancer la croissance des inégalités, la solution que nous proposons est de redoubler l'intensité de la croissance économique, améliorer les conditions de vie de la communauté pauvre et valoriser les ressources humaines. En outre, prendre en conservation individuellement et collectivement cette communauté délaissée et marginalisée. Créer les structures agricoles qui pallient aux difficultés de sécurité alimentaire. En outre, comme les autres le pensent, un simple transfert des fonds destinés aux victimes de la pauvreté suffira pour éradiquer ou faire disparaître cette pauvreté. Nous suggérons que cette mesure soulagera les symptômes qu'à court terme et ne peut être considérée comme une situation durable. La pauvreté en tant que problème social appelle à des mesures sociales, à savoir l'élimination consciente et volontaire de quelques facteurs de la pauvreté, à savoir l'ignorance, la maladie, la malhonnêteté et la dépendance. Pour clore, je veux tout simplement dire que la pauvreté est un problème complexe et multidimensionnel, dont les origines sont aussi bien nationaux qu'internationaux.
Merci à Justin Tamboué depuis Kananga dans le Kassai occidental. Bon, Pierre Ongala, vous avez suivi le premier auditeur Patrick Akibali qui a parlé de stratégie que l'État met en place pour lutter contre la pauvreté. Et puis il a proposé que ce serait bon de promouvoir des activités chez la femme, puisque c'est vraiment la mère au foyer. C'est elle qui actuellement se dépense souvent coréenne pour nourrir la famille.
Bon, tout ce que je peux dire, moi, comme il a parlé de l'État, bon, je pense que, moi, n'étant pas ici représentant de l'État,
oui.
Bon, c'est que moi, je peux dire que l'État fait son travail, selon leur programme qui a été défendu à l'Assemblée et qui est maintenant exécuté par le gouvernement. Moi, je vois qu'il y a des actions au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère des Plans, un peu partout, et au ministère de la Santé comme de l'Éducation. Et s'il veut avoir beaucoup plus d'informations, il doit aller auprès de ces ministères-là. Je crois qu'il y aura une bonne réponse. Pour moi, je ne veux pas vraiment m'étendre sur ce que je ne maîtrise pas.
Voilà. Et sur, qu'est-ce que vous dites à Justin Tamboué qui a cité un certain nombre de facteurs qui font que si cela n'est pas réalisé, ça serait difficile de réduire la pauvreté au sein de la communauté. Il a dit par exemple qu'il faut une croissance économique, il faut révaloriser les ressources humaines, il faut des structures qui permettent de relancer le secteur agricole. Qu'est-ce que vous dites à Justin Tamboué?
Pour Justin Tamboué, j'ai trouvé que c'était une contribution.
Oui.
Ce n'était pas une question, une contribution qui était de sa manière.
Et votre commentaire par rapport à ça, parce que là, parler de la croissance économique, de la révalorisation des ressources humaines, mais aussi de relancer le secteur agricole.
Bon, la croissance économique, ça, c'est une tâche de l'État,
oui,
qui n'est pas vraiment de la communauté, c'est parce que nous parlons de la communauté. Alors, l'État est en train de s'employer, parce que on est, je ne sais pas, à la croissance économique de 8,5 ou quelque chose comme ça. C'est que l'État n'a pas croisé les bras, est en train de travailler, et nous félicitons l'État pour cela.
Alors, s'il faut revenir au sein dans la communauté, les comités locaux de développement, est-ce que ça joue un rôle?
Oui. Ces comités-là sont en train de, quand même de veiller et d'amener les gens à penser à leur souffrance et comment arriver à se prendre parfois en charge. Donc, ces comités-là sont nécessaires. Ce sont ces comités-là qui travaillent souvent avec les ONG et qui parviennent parfois à réclamer certaines choses au nom de la communauté. Donc, vous trouverez que ces comités peuvent aller réclamer une route pour une route de cette agricole, peuvent réclamer une école, un centre de santé. Et ils peuvent même arriver à organiser des tontines ou des coopératives et qui arrivent quand même à résoudre certains problèmes du milieu. Bon, ils ont une certaine influence pour pouvoir penser la manière dans laquelle ils peuvent résoudre le problème. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans ces milieux-là si vous ne collaborez pas avec les comités, un comité local. Vous ne pouvez pas arriver à une solution. Et ces comités travaillent. Bon, c'est qu'ils font face au manque de revenus pour résoudre la plupart des choses. Parce que pour résoudre un problème, il y a trois moyens. Il y a un moyen humain, un moyen financier et un moyen matériel. Bon, la communauté peut représenter ici le moyen humain, mais s'ils n'ont pas le moyen financier, le problème n'est pas résolu. Alors, vous comprenez, s'ils n'ont pas le moyen matériel, le problème n'est pas résolu. Donc, le comité peut bien penser, mais il faut que ce comité dispose de moyens.
Voilà, nous allons accueillir un autre auditeur en ligne. Il s'agit de Chimanga qui appelle de Kisangani en province orientale. Chimanga, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour au Capi Service.
On vous écoute, Chimanga.
Justement, je trouve que pour lutter contre la pauvreté, la population doit d'abord prendre conscience en changeant sa mentalité, juste tout en se mettant dans le travail. Parce que la prise de conscience, là, sera quelque chose de mieux. Parce que, comment expliquer que quelqu'un peut se mettre dans le travail, juste échapper à la pauvreté sans changer la mentalité? Vous trouvez que c'est quelque chose qui est entre les dilemmes pour trouver une des solutions meilleures?
Merci à Chimanga, depuis Kisangani, en province orientale. Pierre Ongala.
Oui, il a parlé de changement de mentalité. Bien sûr, moi, je peux l'appuyer. Pour dire que la plupart des gens qui veulent chasser la pauvreté, lutter contre la pauvreté, sont entre deux civilisations. Bon, il y a la mentalité, pour moi, il y a des gens qui sont restés dans la coutume. Alors, tout ce qu'ils vont vous dire, c'est nos ancêtres ont dit ceci, nos ancêtres ont fait ceci. Alors, un homme comme ça, pour changer directement et apprendre ce que la civilisation exige, c'est un peu plus fort. Donc, et aussi, les gens qui sont dans le changement de mentalité, moi j'entends des analphabètes aussi. Il y a des analphabètes qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Bon, il y a deux sortes d'analphabétisme. Il y a les analphabètes, ceux qui n'ont pas vraiment, qui ne savent pas ni lire ni écrire. Mais il y a d'autres qui savent lire et écrire et qui sont analphabètes fonctionnels. C'est-à-dire, il lit, il parle, mais il n'a pas une fonction réelle qu'il peut exercer. Tout ce qu'on peut lui dire, il ne comprend pas. Et il lui invente ce que lui croit être réel, alors qu'il y a des règles qui sont déjà établies dans la vie. Alors, ces gens-là, dans leur mentalité, c'est difficile de les changer. Là, je suis d'accord avec lui. Mais quand quelqu'un veut changer, c'est-à-dire quoi? Il faut vivre avec des gens qui ont déjà connu le changement. Parce que quand un aveugle conduit un autre, ils vont tomber dans un puits. Mais quand vous restez à côté des gens qui ont déjà eu, qui connaissent le changement et qui sont civilisés, vous deviendrez civilisés aussi. Donc, le changement de mentalité pour moi ici, c'est vivre à côté des gens qui ont déjà changé cette mentalité-là.
Voilà, des gens qui ont déjà changé cette mentalité-là. Nous parlons de comment lutter contre la pauvreté dans une communauté. On en parle avec Pierre Ongala, qui est spécialiste en agro-développement. Nous rappelons le numéro de contact. Vous pouvez appeler 081-890-63-94 pour participer à cette émission.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Vous parliez tout à l'heure du rôle important du comité local de développement qui doit en principe, ces comités doivent en principe en répertorier tout ce qu'il y a comme problème au sein de la communauté et essayer de voir avec soit avec l'État, soit avec des ONG, comment trouver de solutions à ces problèmes. Mais est-ce que c'est facile de mettre en place un comité local de développement?
Oui. Parce que les gens, quand il y a dans le milieu un besoin qui se fait sentir, par exemple, manque d'eau, c'est tout le monde a besoin de l'eau. À ce moment-là, ils ne trouvent pas de solution. Ils vont faire quoi? Ils vont se mettre ensemble. Nous avons besoin d'eau. Alors, où est-ce qu'on peut aller toquer? Qu'est-ce qu'on peut... À ce moment-là, ces besoins-là, le comité prend ces besoins-là en main et va chercher comment résoudre ce problème auprès des autres. Et sur, par exemple, des maladies. Des gens meurent quelque part, ils ne savent pas trouver de solution. Mais ils vont vers l'État ou l'autorité qui est sur place. Et ce comité a joué quand même un rôle et finalement, et on envoie des équipes pour voir et étudier qu'est-ce qui s'est passé dans ce milieu-là. Le comité a joué quand même un rôle. Le comité local a joué un rôle quand même.
Donc c'est important dans une communauté d'avoir ces comités locaux de développement, mais également autre chose par rapport à... ça c'est ce qui est souvent remarqué, c'est-à-dire que vous avez des problèmes d'accès à... peut-être à l'éducation, il y a Inongi, peut-être l'État, qui a pu mettre en place une structure pour soit des soins de santé, soit pour l'éducation, mais la population ne sait pas aussi très bien s'approprier ça, c'est aussi un fonds de développement.
Oui, la population doit s'approprier, parce que l'éducation, comme la santé, concourt vers le bien.
Oui.
Alors, la population doit s'approprier, parce que on ne doit pas vivre éternellement dans les milieux dans lesquels on est. Alors, la population va trouver l'importance de l'éducation au moment où elle va se déplacer vers d'autres milieux. Il trouvera qu'elle n'est pas comprise. Pourquoi? Parce que les autres ont une éducation peut-être beaucoup plus poussée que leur niveau de compréhension.
Oui.
Et vous voilà, à ce moment-là, c'est un besoin. Et quelqu'un qui vient leur donner peut-être même le moyen. Et il n'y a même pas moyen de dialoguer directement. Alors, vous comprenez. Et comment ils vont exprimer ces besoins-là? Donc, l'éducation est tellement importante pour nous. Et surtout dans le monde moderne, nous ne pouvons pas nous dire où les gens ont l'informatique et vont à la Lune et que ces gens-là sont encore dans l'Antiquité à l'époque de... Non. L'éducation est très importante pour que l'homme soit épanoui.
Voilà, notre auditeur en ligne, il s'agit de Makuluka, il appelle de Kisangani, en province orientale. Makuluka, bonjour.
Bonjour, bonjour. Je suis, monsieur, notre invité, mes salutations d'abord.
Merci.
Moi, ma proposition est la suivante.
Oui.
Vous savez que la mentalité, c'est une structure très difficile pour que les gens puissent la changer. J'invite l'État congolais à intervenir. Qu'il mette tous les moyens possibles pour mettre fin au vagabondage, au libertinage. Vous savez que pendant la période coloniale, avec la présence des Belges, nos vieux, nos papas étaient en mesure de s'acheter des vélos, des socialistes. Pourquoi? Parce que l'administration invitait à tout le monde de faire le travail. Dans les villages, il faut que les gens travaillent. Vous ne travaillez pas, il ne faut pas circuler. Il faut un temps propice pour que tout le monde puisse avoir un chat. Si vous n'avez pas de chat, il ne faut pas faire de vagabondage, dit-il. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu intervenir, parce que si nous laissons la liberté comme ça aux gens, cet état de choses ne peut pas terminer. C'est ça mon intervention.
Merci, Makuluka, depuis Kisangani, province orientale. Voilà, il revient également sur le problème de changement de mentalité.
Oui. Mais il est allé plus loin jusqu'à l'époque coloniale. Nous sommes indépendants depuis 54 ans.
Oui.
Moi, je pense que peut-être ces idées-là étaient bonnes à cette époque, mais elles ne sont pas peut-être... Pour moi, parler à la place de l'État, c'est aussi difficile. Hein? Mais changement de mentalité...
C'est important, ça, c'est important.
C'est important.